Radio Okapi. Grande interview.
Il est gouverneur de l'une des provinces les plus meurtries de la RDC. Il réagit au renouvellement du mandat de la MONUSCO par le Conseil de sécurité de l'ONU, s'exprime sur les massacres de Beni ainsi que les prochaines élections. Julien Paluku Kaongia, gouverneur de la province du Nord Kivu, est l'invité de grande interview. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Julien Paluku, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu, vous le savez. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le mandat de la MONUSCO à travers la résolution 2409 qui lui donne encore mandat de protéger les populations civiles et d'accompagner le gouvernement congolais dans le processus électoral. Comment vous, gouverneur du Nord Kivu, l'une des provinces les plus meurtries du Congo, vous avez reçu cette annonce?
Oui, c'est depuis effectivement 11 ans que je dirige la province du Nord Kivu et je suis témoin des efforts que la MONUSCO, d'abord la MONUC à l'époque, a pu déployer aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Je me rappelle que en 2007, après mon élection, c'était presque la chute de la ville de Goma, en passant par Sake, toute la population de Sake s'est déversée sur la ville. Et à l'époque, ce sont les chars de la MONUSCO qui avaient pu stopper l'avancée des rebelles du côté de Sake, avec nos forces armées sur les collines de Mushake. Donc, je suis témoin de tous ces efforts-là. Je me rappelle également qu'en 2008, c'était pratiquement le 29 octobre 2008, lorsque la ville allait tomber, il y avait beaucoup de tractations sur le plan diplomatique, le président de la République, les Nations Unies, pour que Laurent Nkunda puisse s'arrêter à 2 km de la ville de Goma. Il n'a pas pu entrer dans la ville, il a pu reculer. Quelques temps plus tard, c'était effectivement les opérations de mixage. Ensuite, c'était les négociations à Nairobi, auquel j'avais pris part sous l'égide des Nations Unies. À l'époque, c'était Olusegun Obasanjo et puis Benjamin Mkapa, pour vous montrer combien les Nations Unies étaient totalement impliquées dans la résolution de la crise. Enfin, c'était lorsque les M23 a momentanément pris la ville de Goma pendant 10 jours en 2013. C'était l'implication à la fois de la MONUSCO et du gouvernement congolais lorsque on s'est retrouvé à Kampala au niveau de la CIRGL pour que les M23 fasse seulement 11 jours et se retire de la ville de Goma. Donc, sur ces plans-là, je suis témoin des efforts des Nations Unies aux côtés de la RDC pour que la région se stabilise. Maintenant, la résolution nouvelle qui a été votée, c'est pour protéger la population, pour soutenir le processus électoral. Nous pensons que cette fois-ci, il faudrait que l'on change davantage les options des forces de la MONUSCO dans notre pays, comme je n'ai cessé de le dire. À mon niveau, j'estime que la brigade d'intervention qui avait été créée au sein de la MONUSCO devrait avoir de plus en plus de pouvoir d'action et surtout d'autonomie d'action et non pas dépendre de la machine lourde des Nations Unies. Parce que vous savez, la machine elle est trop lourde, elle dépend de New York, elle dépend de Kinshasa, elle dépend je ne sais de quel centre de décision. À mon avis, il faudrait que cette brigade s'autonomise davantage et qu'on lui donne la liberté de décider là où elle est déployée. Si elle est déployée à Beni, si elle est déployée à Masisi, si elle est déployée à Walikale, si elle est déployée à Nyamilima, si elle est déployée à Bunagana, si elle est déployée à Bualanda, si elle est déployée partout à Goma, qu'à chaque fois qu'il y ait une action qui nécessite une réaction de cette brigade-là, qu'il n'y ait pas une intervention d'une décision qui viendrait de New York. Moi, je crois que c'est ça l'innovation que je pourrais demander aux Nations Unies dans la mise en œuvre de la résolution qui vient d'être votée.
Le gouvernement congolais, par la bouche de son représentant à l'ONU, a estimé que ça devrait être soit la dernière ou l'avant-dernière résolution. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je crois que 20 ans après, c'est quand même important qu'on puisse évaluer l'action des Nations Unies en République démocratique du Congo. Je l'ai évoqué dans beaucoup d'émissions de dialogue entre Congolais auxquels j'ai participé, qu'on ne doit pas être comme en Chypre, où la mission des Nations Unies a maintenant plus de 54 ans Il faudrait quand même qu'à un moment donné, les Nations Unies puissent se frotter les mains pour dire, nous avons été en République démocratique du Congo, nous avons accompagné ce pays, nous l'avons laissé maintenant libre, en train de cheminer lui-même. Il ne faudrait quand même pas que nous soyons tout le temps comme un petit bébé qui n'a pas su marcher, qu'on a laissé tout le temps en train de téter, qui n'a pas su lui-même prendre sa bouille. Il faudrait que les Nations Unies se satisfassent elles-mêmes de dire, nous avons aidé le pays. Il est arrivé lui-même à voler de ses propres ailes et il peut prendre en charge ses propres problèmes. Je crois que c'est cela la volonté du gouvernement congolais et ça doit être la satisfaction des Nations Unies de laisser les pays, la RDC, finalement prendre en charge ses problèmes. Sinon, les Nations Unies vont se demander pourquoi avoir fait 20 ans si la RDC ne peut pas lui-même être en mesure de prendre en charge ses problèmes. Et cela nous interpelle, nous aussi, autorités congolaises. Nous devons bénéficier effectivement de la présence des Nations Unies pour dire les Nations Unies ont les moyens, ils ont la capacité logistique. Comment nous devons bénéficier de sa présence au niveau de la formation de notre armée, la formation de la police, la formation des services, pour qu'en se retirant, nous bénéficions effectivement de cette capacité logistique, financière dont disposent les Nations Unies. Je crois que c'est cet ensemble d'éléments dont parle souvent le gouvernement congolais et j'estime qu'il faut une évaluation pour ça.
Monsieur le gouverneur, on ne peut pas parler du Nord Kivu sans évoquer les massacres récurrents qui se passent à Beni malgré la multiplicité des opérations militaires. Visiblement, on a l'impression que le gouvernement central et le gouvernement provincial, vous êtes à bout de souffle.
La situation de Beni interpelle tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, je pense que toute évaluation faite, il faudrait que nous puissions, nous tous, considérer que nous sommes atteints par un virus du terrorisme. Nous avons évalué la situation de Beni depuis tous ces temps. Chacun a pu dire ce qu'il a pu. Mais je crois que à un moment donné, il faut que nous nous mettions tous ensemble et dire, eh bien, le terrorisme est entré chez nous. Nous pourrions être en train de penser à des stratégies à gauche, à droite et croire que c'est une situation qu'on peut évacuer en un jour alors que c'est un virus qui s'est installé. Vous savez, lorsque quelqu'un est atteint par le sida, il peut croire qu'il s'agit de la tuberculose, il peut croire qu'il s'agit du rhume, il peut croire qu'il s'agit de la toux et il commence à chercher les médicaments contre la toux alors qu'il s'agit effectivement du VIH. Et là, il va chaque fois acheter les médicaments contre la toux, contre les rhumes, contre autre chose, alors qu'in fine, c'est le VIH qui l'a atteint. Donc je crois que les autorités congolaises, les Nations Unies, ensemble avec la population, nous devons considérer que le terrorisme a atteint la République démocratique du Congo par Beni. Et la preuve, c'est que ça fait 4 ans que la guerre sévit dans les territoires de Beni. La République démocratique du Congo est en train de déployer tous les moyens. Les Nations Unies sont en train de déployer tous les moyens. Les avions amènent la logistique, ils amènent les munitions, ils amènent l'armement, ils amènent les médicaments, ils amènent tout ce qu'il faut pour appuyer l'armée. Mais pendant 4 ans, ces rebelles n'ont aucun aéroport. Pendant 4 ans, ces rebelles ont des munitions, malheureusement, on ne sait comment. Ils ont la logistique, ils ont les médicaments, ils ont les carburants, ils ont toute la chaîne d'approvisionnement.
Et leur identité n'est toujours pas connue.
Vous vous rappelez ce qui s'est passé au Nigeria lorsqu'on a enlevé les 200 filles, les 200 lycéennes. Les gens n'ont pas compris comment 200 lycéennes peuvent être enlevées comme ça au Nigeria. Et ça fait des années et des années, elles ont disparu comme ça de la nature. Et c'est des choses auxquelles on est en train d'assister à Beni. Donc je crois aujourd'hui, il faut que et les Nations Unies et le gouvernement congolais se mettent ensemble pour dire, eh bien, nous pouvons croire aux petits maïmaï qui viennent, qui attaquent, etc., alors que c'est autre chose, bien sûr, avec des mains noires. Parce que, imaginez-vous, pendant 4 ans, l'armée a toute la logistique, a l'appui du gouvernement, les Nations Unies ont la brigade, mais des gens qui n'ont aucun aéroport, qui n'ont aucune logistique, qui n'ont aucun moyen connu d'approvisionnement, résistent et face aux Nations Unies, et face au gouvernement, c'est effectivement ça les méthodes des terroristes.
Et donc la solution militaire a échoué?
Non, la solution militaire n'a pas échoué, c'est peut-être la tactique et la stratégie qu'il faut revoir. On pouvait penser qu'on a en face des éléments connus, avec des méthodes traditionnelles qu'on devait utiliser, alors qu'on devait utiliser d'autres stratégies. Je crois qu'il faut revisiter les méthodes qui sont utilisées par les grandes nations lorsqu'elles font face au terrorisme, pour dire qu'est-ce que nous aussi, à Beni, nous pouvons utiliser comme stratégie pour devoir faire face à ce qui se passe à Beni. Voilà pourquoi la population de Beni devra effectivement accompagner son armée, accompagner les Nations Unies en termes d'information. Parce que les terroristes, lorsqu'ils s'installent, ils commencent par pénétrer d'abord la population. C'est des actions qu'ils mènent pour séparer la population de son armée, pour séparer la population de tous ceux qui viennent appuyer l'armée, notamment les Nations Unies. Et on est en train de voir comment ils réussissent, ces terroristes-là. Parce qu'ils opposent effectivement l'armée à la population lorsqu'ils touchent au cœur de la population. Ils viennent tuer les bébés, ils viennent tuer les femmes, ils viennent tuer les jeunes gens. Et ça, ça développe au sein de la population le sentiment qu'elle est abandonnée. Alors, au lieu à ce que la population dénonce le terrorisme qui s'installe, la population s'en prend et aux forces armées, et aux Nations Unies, et aux autorités, et cela donne effectivement de la place au terrorisme pour s'installer allègrement. Et c'est donc une stratégie qui a réussi pour ces terroristes qui s'installent effectivement dans la partie nord de la province du Nord Kivu.
Et parmi les solutions, vous avez entrepris l'électrification de la ville de Beni. Qu'est-ce que ça peut apporter dans ce climat délétère et morose à la population?
Nous, dans notre démarche, nous pensons qu'il faut à la fois faire alterner développement et action militaire. C'est-à-dire, nous ne devons pas croiser les bras et dire, comme à Beni, ça crépite à tout moment, on va suivre que les coups de balles jusqu'à ce qu'elles vont cesser de siffler. Non, nous pensons qu'il faut alterner les tout. À chaque fois qu'il y a accalmie quelque part, nous pensons qu'il faut une action aussi de développement là où il le faut, pour que la population voie peut-être que, faute s'il n'y a pas telle action malheureuse, le gouvernement pouvait être à même de trouver des solutions à tel problème. Voilà pourquoi, par exemple, au niveau de la partie de la province, il y a des actions d'électrification qui ont commencé pour dire on peut aussi chasser l'insécurité par des actions d'électrification, comme c'est le cas aujourd'hui à Butembo. Il y a dans la partie de Lubero, où on est en train de construire aussi une microcentrale. Il y a dans les Massis aussi la centrale de Waou, qui est construite. Et bientôt en 2019, ça sera la ville de Beni à partir de Talia. Toutes ces actions sont menées dans le sens de crédibiliser l'opinion pour dire le gouvernement est présent, le gouvernement veut bien faire, mais il y a des obstacles qui s'érigent sur le chemin de parcours de ce gouvernement-là. Mais malgré ces obstacles, la volonté se dessine. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit, la volonté que nous avons, c'est d'alterner action de développement et action militaire pour que ce mariage-là nous permette d'atteindre l'objectif.
Radio Okapi. Grande interview.
Grande interview reçoit Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, les élections approchent. Vous êtes président d'un parti politique, le BUREC, et tout récemment, vous avez lancé votre regroupement politique, l'Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo. C'est quoi la finalité?
Oui, je suis l'autorité morale du BUREC, bien entendu, mais dans le cadre de la nouvelle loi électorale, eh bien, nous nous sommes retrouvés. Parce que la nouvelle loi lance quelques défis. Le premier défi, c'est le seuil de représentativité, c'est-à-dire, comme la CENI a publié le nombre d'électeurs de la RDC, nous sommes 40 millions d'électeurs. Théoriquement, pour qu'un parti puisse avoir droit au chapitre dans la répartition des sièges, il faut qu'il ait théoriquement 400 000 voix. Et donc, cela demande à chaque parti de pouvoir s'auto-évaluer, de savoir s'il peut avoir 400 000 voix. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés avec d'autres partis. Et nous avons créé un regroupement politique qu'on appelle AABC, Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo. Et ces 20 partis m'ont choisi comme coordonnateur du bureau politique. Et les ambitions de ces regroupements, c'est de gagner les élections. Parce qu'effectivement, un parti politique lorsqu'il est créé, un regroupement politique lorsqu'il est créé, c'est de gagner les élections à tous les niveaux. Et aujourd'hui, nous sommes dans une famille politique. Notre famille politique, c'est la majorité présidentielle. Et nous attendons offrir à l'opinion demain après demain la meilleure alternance qui se passe. Parce que comme vous le savez, et je l'ai toujours dit, et le président de la République voudrait être parmi les rares personnes qui vont permettre à ce pays d'avoir un président qui va serrer la main au président vivant. Parce que depuis 1960, il n'y a jamais eu des passations de pouvoir entre un président en vie et c'est lui qui lui succède. Entre Mobutu et Kassavubu, il n'y a jamais eu de passations de pouvoir. Entre Mobutu et Laurent Désiré Kabila, il n'y a jamais eu de passations de pouvoir. Mais nous, nous croyons que cette fois-ci, ça sera la bonne. Entre le président de la République actuelle et celui qui va lui succéder, il y aura une passation en douceur du pouvoir. Et nous, au regroupement, nous nous battons effectivement pour que dans les microcosmes politiques de demain, nous puissions avoir la part belle. Parce que comme regroupement, nous sommes 20 partis politiques avec des personnalités très importantes. Et l'objectif, effectivement, c'est d'avoir au minimum une centaine de députés nationaux à l'Assemblée nationale pour que nous puissions peser dans l'échiquier politique de 2018, 2019, 2020 jusqu'à 2023, pour que nous puissions offrir à la nation les meilleurs de nous-mêmes, de par l'expérience que nous avons acquise pendant tous ces temps. Et l'alternance politique dont on parle offre à l'opinion les idées nouvelles de la bonne gouvernance telle que les dit les sigles de notre regroupement.
Il y a deux problèmes en ce moment par rapport aux élections. Il y a d'abord la question de la machine à voter. Quelle est la position de votre regroupement politique par rapport à cet aspect?
Nous avons eu l'occasion d'assister à la démonstration faite par la CENI par rapport à la machine à voter. Pour nous, c'est un outil important au regard de ce qui a été démontré. Transparence. Pourquoi? Parce que cette machine à voter permet à ce que, à l'ouverture, il y a un bulletin qui est introduit et qui ouvre la machine au vote. Et à la fermeture, il y a un autre bulletin qui ferme automatiquement la machine au vote et personne ne peut l'utiliser. Et ce dernier bulletin vous donne automatiquement les statistiques des votes qui se sont déroulés au courant de la journée. Donc, et chacun peut déjà disposer de ces statistiques avec lui. Il peut aller, il peut les publier sur WhatsApp, il peut les publier sur Internet. Donc, à la fin du vote, à 18h, celui qui a déployé les témoins dans tous les bureaux de vote de la République peut avoir l'ensemble des votes sur toute l'étendue de la République. Et donc moi, à mon niveau, avec le regroupement, nous avons estimé que c'était un outil de transparence, de haute portée, dont nous disposons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Des deux, ce qui m'a réjoui et ce qui nous a réjoui au regroupement, c'est que c'est une invention de l'intelligence congolaise. C'est des Congolais qui ont conçu ce logiciel. Il n'est allé en Corée du Sud que pour l'impression, parce que nous n'avons pas ici une logistique capable d'imprimer la machine. Mais l'intelligence qu'il y a dans la machine, elle est congolaise. Et je crois que les Congolais ne doivent quand même pas croire que c'est parce que les choses viennent de la France, de la Belgique, des États-Unis qu'elles sont bonnes. Lorsqu'il y a une machine comme celle-là, inventée par des Congolais, mais imprimée en Corée du Sud, nous devons la promouvoir pour que demain, nous puissions avoir les droits d'auteur, je ne sais pas comment on va l'appeler, d'invention, et que demain, ça soit une marque déposée de la République démocratique du Congo pour que la machine serve désormais sur l'ensemble de tout l'espace où les élections sont organisées. Et ça sera la fierté pour moi de la République démocratique du Congo. On doit cesser de politiser, de croire qu'il y a derrière ça des idées, des vols, de ceci. L'essentiel, selon ce que nous avons vu au regroupement AABC, l'essentiel pour les acteurs politiques, c'est de déployer les témoins dans chaque bureau de vote et d'exiger qu'à la fin du vote, chacun dispose de ces derniers bulletins qui ferment la machine et qui a à son verso les statistiques de vote qui se sont déroulées. Et si chacun a ces bulletins-là, à une heure de la fin du vote, il a les votes et il peut les publier et les confronter devant les juridictions.
Pourquoi, par exemple, la CENI ne pourrait pas certifier simplement cette machine comme l'a proposé la CENCO pour mettre tout le monde d'accord?
Oui, moi je ne pense pas que la CENI ait refusé cette proposition parce que j'ai suivi une des interventions du président de la CENI, Nanga, qui a dit qu'il est prêt à ce qu'il y ait une commission, il y ait des experts qui certifient cette machine. Je suis moi-même d'accord que l'on certifie cette machine. Mais moi, ce qui importe, c'est que c'est une invention congolaise. Vous savez, les Congolais n'aiment toujours pas quand les choses sont congolaises. Si c'était fait par Pierre Grévois ou Jean-Jacques Rousseau, les gens seraient tellement contents que ce soit une invention qui vienne de Montesquieu. Hein? Mais quand c'est fait par Julien Paluku, par exemple, on va dire, mais l'homme de Goma est-il capable de faire quoi? Je crois qu'il faut quand même commencer à croire aux intelligences congolaises. Nous avons des gens capables de beaucoup de choses. On a des informaticiens qui sont allés en Inde, qui sont allés partout ailleurs, et je les ai vus, qui sont capables. Croyons à ce que les Congolais sont capables de faire. Expérimentons-les, voyons. La deuxième chose ou la troisième, c'est que, à défaut d'utiliser la machine à voter, il y a des risques d'un deuxième glissement. Parce que selon les explications de la CENI, la machine à voter nous permet d'économiser autour de 200 à 300 millions de dollars qui ne sont pas encore disponibles au niveau des caisses de l'État. Pourquoi? Parce que la machine nous permet d'épargner des milliers et des milliers de bulletins de vote. Vous savez qu'avec la tendance pour tout le monde de devenir député, j'ai suivi une réflexion, nous aurons potentiellement 37 000 candidats députés nationaux. Nous aurons potentiellement 40 000 candidats députés provinciaux. Alors, avec les partis politiques qui foisonnent, qui sont là comme des champignons, donc un bulletin de vote a presque le volume d'un livre. Et pour 40 millions d'électeurs, ça fait 40 millions de bulletins de vote par scrutin législatif, provincial, national et présidentiel. Ça fait 120 millions de livres qu'il faut transporter à partir d'où? D'abord imprimer, à partir de quelle imprimerie? Et puis transporter par quel avion? Et puis distribuer à l'intérieur du pays par quel moyen de déplacement? C'est tout ça des éléments que les Congolais doivent comprendre.
Alors, Monsieur le Gouverneur, est-ce que votre regroupement politique AABC croit vraiment à l'organisation des élections au 23 décembre 2018?
Nous croyons plus que quiconque aux élections parce que nous voulons être présents dans les institutions de demain. Parce que nous sommes un regroupement composé de jeunes gens. Lorsque vous voyez les partis politiques qui composent les regroupements AABC, c'est des partis politiques d'émergence, des partis politiques d'avenir. Ce n'est pas des partis politiques de la vieille classe. C'est des partis politiques composés des gens qui sont pétris à la praxis. Ce n'est pas des gens qui sont versés dans une gestion calamiteuse, décriée. C'est des gens qui veulent offrir à la République une vision nouvelle de la gestion de la chose publique. Et donc, ils voudraient rapidement que les élections soient organisées pour qu'ils offrent à la République cette nouvelle manière de devoir gouverner. Et c'est cela l'essence de la bonne gouvernance qu'incarnent les sigles. Et voilà pourquoi, au 23 décembre, l'ABC voudrait que les élections, effectivement, se tiennent. Et c'est pourquoi l'ABC n'a pas peur de cela. Elle mobilise ses électeurs, elle mobilise la population. Il y a beaucoup de personnalités maintenant qui arrivent, elles sont nombreuses, parce que quand elles voient la composition de ces regroupements, elle dit il y a beaucoup d'espoir à travers ces regroupements.
Grande interview reçoit Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, une deuxième question qui fait polémique, c'est la loi sur la répartition des sièges qui est en examen au Parlement. Il y a d'autres politiciens qui pensent que cette loi ne devrait pas être traitée au moment où le fichier électoral n'a pas encore été nettoyé. Il se pourrait qu'il y ait des manigances, des manipulations. Quelle est la position de votre regroupement par rapport à cette question?
Oui, la loi électorale a été votée par le Parlement. La loi de répartition des sièges sera votée par le Parlement. Toute loi peut être modifiée à tout moment. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on donne raison à ceux qui veulent repousser davantage les élections. Si on retarde la loi de répartition des sièges, eh bien, on va dépasser le délai qui a été fixé par la CENI parce qu'au 9 mai 2018, le président de la République doit déjà avoir promulgué la loi sur la répartition des sièges. Et même s'il y a des petits ajustements qu'on doit faire, nous sommes 40 millions. À supposer qu'on retombe à 38 millions ou 37 millions, il y aura peut-être des pertes d'un siège ou de deux sièges qu'on pourra ajuster au fur et à mesure. Parce que les élections n'ont pas encore eu lieu aujourd'hui. Les élections auront lieu en décembre 2018. Donc, ça ne peut pas empêcher le vote de la loi aujourd'hui pour que la machine commence à tourner, pour que la CENI commence à travailler. Si on trouve qu'il y a des petits problèmes qui peuvent se poser un mois plus tard, on peut revenir sur la loi et ça va seulement faire qu'il y ait des petits ajustements qui n'empêchent pas que les élections ne puissent se passer le 23 décembre. Donc, à mon avis, je ne pense pas que les petits problèmes de 1%, parce que même nous qui avons fait les statistiques, nous savons qu'il y a toujours une marge d'erreur d'à peu près 5% qu'on peut tolérer dans tout travail. Et donc si au niveau du fichier électoral, il y a une marge d'erreur qui se situerait encore autour de 5%, je ne pense pas que ce soit un problème au niveau de la République démocratique du Congo. En 2011, il y a eu des problèmes qu'on a décriés. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a autant de problèmes vraiment qu'on peut soulever comme ceux qu'on avait soulevés en 2011?
L'émission est en train de se terminer. Une avant-dernière question. L'opposition crie toujours à la mise en application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pensez-vous que cet accord est encore d'actualité aujourd'hui?
Bon, moi, j'ai toujours eu une lecture très nuancée de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ça a été une occasion pour les opposants, la majorité, la société civile de se retrouver. Et pour les uns de venir au pouvoir, pour les autres de partager,
de se radicaliser.
Et pour moi, l'essentiel maintenant, c'est de nous focaliser vers les élections. Si des gens développent encore des discours du genre « respectons les accords de la Saint-Sylvestre »,
des crispations politiques
ou quoi, c'est vouloir nous ramener encore à dire « comme on n'a pas encore respecté telle étape, repoussons les élections en 2020 ». Donc, il ne faut pas qu'on donne l'occasion aux gens qui pensent qu'il faut repousser davantage. Ce qui n'a pas été fait, ou ce qui n'a jamais été fait depuis 2016, ne le sera pas dans les deux mois qui suivent. Il faut qu'on aille vers l'avant. Ceux qui pensent qu'ils ont la population avec eux, comme nous à la ABC, qu'ils se préparent seulement à aller aux élections. S'il y a quelqu'un qui peut-être n'a pas encore été libéré, eh bien, compris pour lui, pour que dans les 6 mois qui suivent, celui qui va être élu, il signe une ordonnance de grâce et puis il va sortir et on va aller de l'avant.
Alors pour terminer, Monsieur le gouverneur Julien Paluku, un mot à tous ces millions de Congolais qui sont en train de vous suivre en ce moment. Il y a une frange qui pense que vous n'avez pas suffisamment fait d'action à la tête de la province du Nord Kivu. Une autre qui pense que vous auriez peut-être dû mieux faire. Qu'est-ce que vous dites à tous ces compatriotes qui vous suivent en ce moment?
Oui, ça fait 11 ans que je dirige la province du Nord Kivu. Le Nord Kivu, ça a été une province avec beaucoup, beaucoup de problèmes. Je crois que aujourd'hui, on ne peut pas m'évaluer en fonction des actions qui ont été faites. C'est-à-dire, il a construit une route, il a construit une école, il a construit un centre de santé. Ce qui est important, c'est que j'ai apporté le peu de savoir à la province du Nord Kivu, le peu de pragmatisme que j'ai pu faire, le peu d'intelligence que Dieu m'a donné à la province. Et ce qui est important dans une gouvernance, c'est que on ne peut jamais estimer terminer tous les problèmes qu'on a rencontrés sur le terrain. On amène des approches de gouvernance, on amène des politiques publiques qu'on commence et on laisse aux autres poursuivre les politiques publiques qu'on a laissées. Sinon, si vous trouvez un gouvernant en train de dire qu'il prend le pouvoir pour aller résoudre tous les problèmes, eh bien, celui-là sera en train de mentir à la population. Sinon, aux États-Unis, il n'y aurait plus d'élections parce que tous les autres auraient terminé les problèmes. Sinon, en France, il n'y aurait plus d'élections parce que les précédents auraient terminé les problèmes. Donc, chacun, quand il prend le pouvoir, eh bien, c'est pour amener l'essentiel de ce qu'il a. C'est pour un programme quinquennal. Dès qu'il l'a atteint, il laisse à l'autre poursuivre là où son prédécesseur s'est arrêté. Et je crois que ce que j'ai jeté comme base va servir à mon successeur de devoir continuer les politiques publiques que j'ai laissées en province du Nord Kivu.
Julien Paluku, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Merci d'avoir reçu grande interview chez vous.
Merci.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Supervision Tina Salama, présentation Alain Rung Mouchinj. Merci de votre attention. Au revoir.